Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba à Gatekakawe. C'est le moment du journal en français dont voici d'abord les principaux titres. Les syndicats des conducteurs de motos, tuk-tuk et vélos sont mécontents suite à la dernière mesure leur interdisant de ne pas franchir le centre-ville de Bujumbura. Ils viennent de saisir le Premier ministre pour demander un dialogue social pour vider la question. Ils viennent de passer près de 3 mois sans avoir une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial PAM. Ils, ce sont les réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC. L'association de défense des droits des réfugiés vivant dans les camps CBDH Vicar lance un cri d'alarme. Aucune fille qui abandonne l'école n'est autorisée de se marier avant 2 ans après l'abandon scolaire. Une mesure prise par l'administrateur de Wukiemba dans la province de Lutana pour faire face aux problèmes d'abandon scolaire. Eulalie Nibizi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi, SEB, dit que la mesure ne devrait pas être prise de façon isolée. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les syndicats des conducteurs de motos, tuk-tuk et vélos demandent un dialogue social pour une issue acceptable à la récente mesure du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et Développement communautaire, interdisant ces moyens de transport à ne plus franchir le centre-ville. Cela se trouve dans une correspondance adressée au Premier ministre ce vendredi dernier. Le point avec Benny Axelakan.
Les syndicats Les conducteurs des motos, tuk-tuk et vélos indiquent avoir compris les préoccupations des autorités du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire en rapport à la réduction des accidents de roulage. C'est dans une correspondance adressée au Premier ministre Alain Guillaume Mouignoni ce dernier vendredi. Ces syndicats montrent toutefois que cela devrait passer par le dialogue et la concertation afin de trouver des solutions plus acceptables pour les deux camps. Cette mesure interdisant les conducteurs des motos, tuk-tuk et vélos de franchir le centre-ville vient pour impacter négativement les populations à faible revenu qui se déplacent à l'aide de ces moyens de transport. L'impact s'affiche aussi sur les travailleurs qu'ils représentent selon cette correspondance toujours. Malgré cette préoccupation des conducteurs des motos, tuk-tuk et vélos, ces derniers ont été invités par les administrateurs des communes Nahangwa et Muha dans une réunion de ce mercredi pour mettre en application cette nouvelle mesure. Rappelons qu'avec la nouvelle mesure du ministère de l'Intérieur, Sécurité publique et Développement communautaire, les motos, les vélos et les tuk-tuk n'auront plus le droit de franchir le pont Kamesa, la zone Musaga et le quartier Gasekebuye dans le sud de la mairie de Bujumbura. Dans le nord de la capitale Bujumbura, les mototaxis, les vélotaxis et les tuk-tuk ne dépasseront pas la rivière Gasenyi, le rond-point d'Ishanik et le château d'eau situé à Mutanga Nord.
Merci Benny Axelakana. Dans le domaine des droits de l'homme, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo sont privés de l'aide alimentaire qu'ils obtenaient de la part du Programme alimentaire mondial PAM. Ils disent que ça fait bientôt 3 mois qu'ils n'ont pas cette assistance. Pire encore, il y a une catégorie de réfugiés qui ne sont pas autorisés à se rendre dans les champs de culture pour récolter. Ils ont peur des enseignements divisionnistes de certains Congolais avoisinés le camp. Ces réfugiés demandent à HCR de tout faire pour leur donner à manger. Les détails avec Georges Niména.
Les informations en provenance du cas de Lusenda, faut savoir que bientôt 3 mois vont se terminer sans que les réfugiés ne reçoivent une aide alimentaire de la part du HCR. Les habitants du camp disent qu'ils crèvent de faim et ne savent pas à quel sens se vouer.
La dernière aide alimentaire que nous avons eue, c'était en date du 11 décembre de l'année passée. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, aucune autre aide alimentaire ne nous a été octroyée. Les gens ont faim. Je n'aurai pas de temps pour l'exprimer. C'est très douloureux. Il n'y a même pas d'écho. Aucune réunion ne s'est tenue pour nous mettre au courant de la situation. Ce n'est que la faim qui se vit ici au camp.
Ninsara.
La situation s'empire à cause de l'insécurité qui règne au camp, une insécurité causée par les Congolais qui sèment des divisions au sein des réfugiés. En effet, une catégorie de réfugiés n'est pas autorisée de se rendre à l'agriculture culture pour récolter, alors que ça pourrait les aider à survivre.
À ce problème, il s'ajoute l'insécurité qui fait que certains d'entre nous ne peuvent pas aller dans les champs pour récolter. Cette insécurité est causée par des Congolais qui sèment des divisions au sein des réfugiés du camp de Lusenda. Ces gens ne peuvent aller au champ ni pour cultiver ni pour récolter. Et de surcroît, on est en train de détruire les champs de culture appartenant à ces mêmes réfugiés. Tout cela empire la situation au camp de Lusenda. Nous demandons au Programme alimentaire mondial, PAM, de venir en aide à ces réfugiés.
La radio INZAM n'a pas pu joindre le représentant du Programme alimentaire mondial. Ce que l'on est en train de faire pour venir en aide à ces réfugiés. Le camp de Lusenda a abrité jusqu'au mois de décembre dernier 28 000 réfugiés burundais.
Merci Georges Nimeya. La situation de ces réfugiés inquiète l'association de défense des droits des réfugiés vivant dans les camps CBDH 8CAR. Son vice-président Léopold Chalangabo appelle le gouvernement congolais à bien collaborer avec les organisations internationales chargées de distribuer les rations auprès des réfugiés afin de vider cette question. On l'écoute.
C'est un problème sérieux. Passer à peu près 3 mois sans assistance alimentaire peut causer des conséquences très sérieuses, notamment des cas de volés qui peuvent se multiplier, des malentendances des familles ou bien des femmes qui peuvent se lancer dans la prostitution. Nous ne comprenons pas pourquoi le PAM se comporte ainsi, parce que ce n'est pas la première fois que les réfugiés burundais en aide de ces insurgés contre le PAM. Donc pour n'avoir pas honoré ses engagements, la CBDH VICAR demande au PAM de fournir ses efforts pour que les réfugiés reçoivent l'assistance qu'elle leur a destinée à temps. Nous demandons aussi au HCR de bien collaborer avec le PAM pour que les réfugiés ne continuent pas à être victimes de l'otage du PAM. Nous demandons également au gouvernement congolais de contrôler toutes les distributions faites par le HCR et le PAM afin que ces réfugiés ne meurent pas de la faim.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoué.
Dans la suite de ce journal, les militants du CNDD-FDD sont contraints de collecter de l'argent de pot de vin pour faire libérer deux militants de ce parti arrêtés pour trafic illicite des fertilisants de l'entreprise FOMI. Cette collecte est organisée par Sylvain Zikoruriro, secrétaire provincial du CNDD-FDD en province Outana. Les habitants de cette commune déplorent ce phénomène et pensent malheureusement que ces militants ne seront pas jugés conformément à la loi. Le point avec Valérie.
Selon nos informations au sein des militants du CNDD-FDD dans la commune Guiharo, le secrétaire provincial du CNDD-FDD, Sylvain Dikoruriho, incite les militants du parti au pouvoir à contribuer financièrement afin de faire libérer Alexis Baragoma, le secrétaire du CNDD-FDD de la zone Guiharo, ainsi que le secrétaire du même parti, un certain Simon. Les mêmes sources indiquent que Sylvain Dikoruriho aurait ordonné aux militants de son parti de constituer une somme de 1 500 000 francs burundais, somme qui servira à payer un pot de vin pour que les enquêtes contre ces deux militants soient abandonnées par la justice. Les deux suspects avaient été arrêtés par le responsable des services de renseignement dans la province de Routana le 15 février dernier après une fouille perquisition effectuée à leur domicile et dans leur magasin. Plusieurs tonnes de fertilisants et de sucre appartenant à la société sucrière Susumo avaient été saisies avant qu'ils ne soient arrêtés. Un autre militant du CNDD-FDD, connu sous le nom de Baranikwa, avait aussi été arrêté le lendemain. Ce dernier a été vite relâché malgré la découverte suspecte de plusieurs sacs de fertilisants dans sa boutique. Selon les habitants de Guiharo, sa libération est survenue après qu'il ait payé des pots de vin grâce à l'intervention de Sylvain Zikoruriho, le secrétaire provincial du CNDD-FDD. Ils accusent ce dernier d'avoir toujours protégé les deux militants incriminés dans ses actes de fraude et de corruption. La radio Inzamba a essayé de contacter par téléphone Sylvain Zikoruriho pour qu'il donne sa version des faits. Sur ces accusations, son téléphone sonnait, mais ne décrochait pas.
Parlons éducation à présent pour vous dire qu'aucune fille n'est autorisée à se marier avant 2 ans à compter du début de son abandon scolaire. C'est une mesure prise par l'administrateur de Roukema en province de l'Outana dans le but de réduire les abandons scolaires. Pour Elali Nimidi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement au Burundi, cette mesure est inefficace parce que prise en isolement.
Cette mesure fait partie des mesures possibles pour réduire l'abandon scolaire, mais aussi le mariage, l'abandon scolaire pour le mariage, mais aussi l'abandon scolaire en général. Cette mesure n'est pas du tout adéquate parce que c'est une mesure isolée. D'autres mesures qui seraient efficaces et qui pourraient soutenir cette mesure. C'est une mesure qui ne pourrait pas s'appliquer à une seule commune seulement et qui a besoin d'un support au niveau d'une décision au niveau national. Si une mesure comme celle-là vient sans être documentée, sans mesure d'accompagnement, telles que les sanctions qui seraient prises à l'encontre des personnes qui vont contrevenir à la décision, là, la décision devient inefficace.
Eulalie Nibidi recommande aux autorités burundaises d'organiser une réunion qui regroupe tous les intervenants dans le domaine de l'éducation dans le but d'arriver à une solution nationale durable sur le phénomène récurrent d'abandon scolaire.
Dans le cas où c'est une mesure qui est décidée à partir du haut niveau du ministère, la mesure aura une force nationale. Elle sera complète. Parce que ce sont des solutions complémentaires, une seule solution ne peut pas être efficace. La mesure qui provient au plus haut niveau, et même d'une loi, contiendrait en fait les problèmes et les solutions, mais aussi les activités qui doivent être menées au niveau national, au niveau intermédiaire au sein des ministères, mais aussi au niveau des communautés, au niveau de l'école, au niveau de l'administration locale. La mesure de réduire les abandons scolaires et surtout les abandons scolaires pour le mariage, que ce soit une solution durable, qui s'applique à des problèmes connus, qui est concertée entre les parties prenantes et qui serait plus ou moins efficace.
De l'éducation à la santé, une mission d'inspecteur du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a effectué ce mardi une mission d'audit à la clinique Prince Louis Gwagasore, après que les représentants des syndicats aient dénoncé un climat de tension entre les travailleurs et la direction. Le docteur Bonit Hazelimana, médecin directeur de cet hôpital public, a décidé unilatéralement de procéder à l'annulation d'un test de recrutement et à la dissolution d'une commission mise en place à cet effet. Plus de détails avec Vanessa Mohitek.
Cette commission du ministère de tutelle a fait cette descente après que les syndicalistes avaient auparavant dénoncé une gestion opaque des biens de l'entreprise et accusé la direction d'entretenir un climat malsain au sein du personnel marqué par un favoritisme débordant. Il est menacé d'entamer un mouvement de grève. Il y a de cela un mois. Ce n'est qu'en date du 14 février dernier que la tension a atteint son comble lorsque le docteur Bonit Avielimana, médecin directeur de cet hôpital public, a décidé unilatéralement de procéder à l'annulation d'un test de recrutement et à la dissolution d'une commission mise en place à cet effet. Cette commission sera accusée d'être responsable des irrégularités qui auraient entaché la procédure de recrutement sans toutefois les nommer selon les sources auprès du personnel de cet hôpital. À leur côté, les membres de cette commission ont reconnu avoir fait passer un test de recrutement en toute objectivité. Ils affirment toutefois avoir été victimes de leur refus de retenir une liste des candidats amenés par le directeur sans avoir passé l'examen selon un membre de cette commission. Selon toujours un membre de cette commission, le docteur Bonit Avelimana avait présenté sa propre liste arguant qu'il s'agit des candidats envoyés par le ministère de la Santé publique et le parti CNDD-FDD. À la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawi, nous avons tenté de joindre par téléphone le directeur de cette institution sanitaire, docteur Bonit Avelimana, mais son téléphone sonnait sans réponse.
Et pour boucler ce journal, l'administrateur de Mulgui a failli à sa mission de protéger des habitants de sa commune. Regret exprimé par maître Jean-Yves Guilimana, activiste des droits de l'homme et juriste. L'un de ses habitants a été sauvagement tué, l'autre grièvement blessé dimanche soir par des inconnus qui les accusaient de pratiquer de la magie noire. Pour maître Jean-Yves Guilimana, cette autorité communale aurait pu éviter le pire en appelant la population à ne pas se faire justice. Cela aurait pu dissuader les auteurs des menaces de mort qui avaient été proférées à l'endroit de l'une des victimes. On écoute maître Jean-Yves Guilimana.
Il n'est pas normal qu'un administrateur dise à un citoyen qui lui dit que sa sécurité est menacée de fuir au lieu de prendre des mesures qui s'imposent, notamment en appelant les forces de sécurité ainsi que les instances judiciaires compétentes pour qu'ils puissent assurer la sécurité du citoyen en question. Une autre observation d'un manquement grave de cet administrateur, c'est que il a tardé à sensibiliser la population pour une bonne cohabitation pacifique. La sensibilisation qu'il a faite après le drame aurait été bien faite auparavant pour prévenir. Nous pensons que après ce drame, il faudrait que les autorités administratives puissent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que les mêmes forfaits ne se répètent, mais aussi pour qu'il y ait un strict respect de la loi, mais aussi une meilleure protection de la population. Le fait de se faire justice, c'est une violation de la loi. Même si une personne est accusée d'être sorcier, nous pensons que ce sont des faits qui sont punis par la loi et il faut plutôt les dénoncer au lieu de se faire justice. L'administrateur communal, tout comme ceux qui ont été impliqués dans ce crime, devrait répondre chacun en ce qui concerne la responsabilité qui est la sienne et pour que justice soit faite à l'endroit de la famille qui vient de perdre leur membre.
C'était maître Jean-Yves Guilimana et c'est par sa voix que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction pour la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à la prochaine.